je crois que c'est la différence avec une exposition uniquement visuelle. On parle beaucoup d'art visuel, mais je pense que quand on dit pratiques artistiques, on est plus complexe, parce qu'il n'y a pas que la vue qui entre en jeu dans la pratique artistique. Et je pense que dans cette exposition particulièrement, il y a aussi une critique du sens de la vue. Très précis d'ailleurs dans certains travaux, et qui est aussi très bien défini par certaines artistes dans les entretiens. Et donc il y a un désir, je suppose, parce que je vais des organisatrices de le dire, c'est-à-dire peut-être qu'une exposition, ce n'est pas seulement un lieu où on passe rapidement, on regarde des trois objets, on a un plaisir visuel et on s'en va. C'est un lieu où on s'assied et on peut étudier des documents. Donc c'est un peu plus comme une bibliothèque. Mais pourquoi pas ?
Je pense qu'on peut aborder l'exposition si on lit les extraits des entretiens qui sont imprimés sur le mur. On peut avoir une espèce de guide qui aide à comprendre les choses qui sont exposées et qui explique aussi la complexité.
Entretien avec Ursula Biemann. Nous aimerions commencer cet entretien par ton projet Kultur présenté à la Stadthalle en 1996. Est-ce que tu peux nous le décrire ? Ce projet s'appelle Kultur, A Gender Project for Istanbul, c'est-à-dire un projet de genre pour Istanbul. Il avait pour objectif de collaborer avec des femmes issues de différents milieux professionnels et de se focaliser sur des questions concernant la condition féminine à Istanbul. Nous voulions analyser les relations de pouvoir sur le plan social, politique et économique dans l'espace urbain. Lors de mon premier voyage, j'ai rencontré un certain nombre d'artistes qui n'avaient pas encore véritablement d'arrière féministe. Je me suis donc tournée vers d'autres femmes à Istanbul, travaillant dans le domaine de la sociologie, des médias ou de l'urbanisme, pour nous présenter des thèmes féministes tels qu'on en discute là-bas, à l'université. Ce projet leur a plu et elles se sont jointes à nous, de sorte que nous avons fini par avoir un groupe de 8 femmes venant de ces différents secteurs. Certaines d'entre elles avaient entendu parler les unes des autres, mais c'était la première fois qu'elles se rencontraient pour collaborer. Nous avons discuté de thèmes possibles pour le projet au cours de diverses réunions et nous en sommes venus à l'idée de nous concentrer sur les femmes travaillant dans le textile, car elles représentent une grande majorité de cette main-d'œuvre qui donne lieu à un important marché gris en Turquie. La plupart d'entre elles sont des émigrés venant d'autres régions qui habitent dans les faubourgs d'Istanbul, dans les bas quartiers. C'était une manière de rassembler toutes les questions qui nous intéressaient, y compris la notion de centre et de périphérie qui était très importante dans ces villes globales. Et d'une autre certaine manière, c'était un reflet de la relation qui existait entre nous, une institution d'art occidentale et des universitaires se trouvant à la périphérie de l'Europe. Le champ des relations que nous avons décidé d'examiner correspondait à nos propres relations de travail. Le projet est alors devenu très complexe, il interpellait les relations à toutes sortes de niveaux différents, à l'intérieur de notre groupe, dans le cadre de nos rencontres avec les femmes de la périphérie et par rapport aux liens que nous avions établis avec la situation de l'émigration urbaine à Zurich, où le projet a finalement été présenté.
La complexité du sujet et la complexité des autres sujets qui sont abordés en même temps que le féminisme, parce qu'il y a des questions sur le postcolonialisme, sur la publicité, sur la place de la femme dans la société. Il y a par exemple un travail de Julie Hall, qui est une artiste américaine, qui est une publicité d'une femme qui se présente pour la présidence des États-Unis, mise en relation avec des boîtes de serviettes hygiéniques qui s'appellent Freedom et Carefree. Et cette relation se comprend par la lecture des interviews au mur. pour citer cet exemple. Il y a d'autres choses qui peuvent être comprises aussi à l'aide des interviews, je pense.
Je pense aussi que le sujet est complexe et que notre idée, ce n'était pas de le rendre simple. Notre idée, c'est de montrer cette complexité, de l'aborder par fragments. Donc le public n'est pas obligé de tout saisir d'un coup. Le public peut aussi aborder les différentes parties. Et l'exposition est conçue comme une série de fragments. De toute façon, je pense que ce serait contradictoire par rapport au sujet de vouloir définir ce que c'est que le féminisme dans l'art, de vouloir en exprimer quelque chose d'uniforme et de lisse et de figé. Je pense que notre idée, c'était aussi de montrer par la complexité de l'exposition que le sujet est complexe.
Alors, le titre de l'exposition, tu nous le disais tout à l'heure, Martine, c'est environ 27 ans, peut-être un peu plus. C'est donc... c'est votre Moyen-Âge, c'est ça? Oui, c'est plutôt donc le calcul depuis le début du féminisme jusqu'à aujourd'hui, c'est voilà. Ça, si j'ai bien compris?
Depuis le début des pratiques artistiques féministes jusqu'à aujourd'hui, le début du féminisme, on peut considérer qu'il a quand même commencé avant.
Oui, d'accord. Mais disons peut-être du féminisme contemporain dont on parle des années 70, etc. MLF, et cette mouvance-là, on ne remonte pas aux suffragettes autour du droit de vote.
Des égalitaires, mais du MLF. Hein.
Est-ce que, malgré tout, donc dans ces 27 ans et peut-être un peu plus, est-ce que c'est un mouvement linéaire comme ça? Ou est-ce que vous distinguez qu'on ne parle pas de la même chose quand on en est aux premières étapes, aux premiers cris de révolte, aux revendications « moi j'existe contre toi l'homme » est-ce que c'est une ligne continue aussi, vous avez découvert dans le travail artistique, Pauline?
Je pense qu'on a essayé de montrer ça en interrogeant des personnes qui ont travaillé dans différentes générations, mais je pense qu'il ne faut non plus pas... il ne faut pas non plus pas centrer ça sur le mouvement féministe européen ou américain. Par exemple, c'était intéressant d'en parler avec l'artiste turc qui a donc aussi participé à des mouvements féministes en Turquie, et on se rend compte que ça s'est passé différemment, à un moment différent. Et donc aussi, l'idée, c'était un peu de décentraliser le féminisme par rapport à une vision eurocentriste ou américaine.
Par exemple, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de choses qui t'a frappé, qu'amène, par exemple, la pratique de cet artiste en Turquie qui diffère beaucoup de ce qui pourrait se faire en Europe, par exemple? Tu te souviens de quelque chose?
Par exemple, ce qui nous a semblé intéressant, c'est que si on pense qu'on considère plutôt les années 70 en Europe et aux États-Unis comme les grandes années d'activisme, et il semble qu'en Turquie, ce soit fait un peu après et d'une manière un peu différente. Mais je pense qu'une autre chose qui est assez intéressante par rapport aux différentes interviews qui ressort, c'est que dans les années 70, il y a eu énormément d'artistes qui ont eu un engagement féministe qui a constitué une grande partie de leur travail. Et beaucoup d'artistes avec lesquels on a aussi fait ces entretiens ont commencé à travailler au début des années 80, et on sent nettement une différence dans leur approche du féminisme au début des années 80, et aussi la manière dont elles se considéraient elles-mêmes en relation avec le féminisme, et comment ça a aussi évolué pendant ces 15 dernières années. Par exemple, il y en a certaines qui refusaient totalement au début des années 80 d'être classées féministes, parce qu'il y avait à ce moment-là une volonté très forte de se démarquer des années 70 et de toute cette vision qui a été très caricaturée dès la fin des années 70, de la femme artiste féministe ou de la féministe activiste. Et maintenant, elles n'ont plus aucun problème à être définies comme des féministes. Donc ça, par exemple, c'est un changement très, très intéressant qu'on a.
Alors qu'en même temps, d'autres femmes ont peur aujourd'hui de continuer à s'affirmer féministes?
Ben aujourd'hui, il y en a encore aussi toujours, mais je pense que c'est vrai que, comme dit par exemple Martha Rosler dans son interview, au début des années 80, il y a eu un moment donné où où beaucoup de personnes ont voulu laisser de côté ces questions pendant quelques temps et les laisser reposer. Et il semble que quand même, ces derniers temps, ces questions soient beaucoup plus reprises et aussi traitées d'une manière différente. Mais
si on devait...
Oui, je pense que c'est aussi l'apport de la théorie du genre qui a aussi fait changer cette approche, que l'idée de passer d'un féminisme différentialiste, en disant les femmes sont différentes, à passer à un féminisme comme une déconstruction des stéréotypes identitaires, c'est quand même se retrouver dans une situation où les femmes peuvent plus s'identifier à un féminisme et de nouveau l'assumer en disant clairement. Et que c'est dans le contexte dans lequel on a travaillé, c'était vraiment important pour nous de montrer ça et que ça soit visible et que ça soit une discussion qui soit menée, alors que c'est une discussion qui est rarement mise sur la table.
Entretien avec Gulsun Karamustafa, artiste turque. Quelle est ta relation au féminisme ? Ma relation au féminisme a commencé dans les années 70. C'était au moment où le féminisme n'était pas aussi connu et aussi discuté en Turquie qu'en Europe. Le féminisme était lié au politique. Être politique, c'était être féministe en même temps. Plus tard, dans les années 80, les féministes turques ont commencé à penser à leurs propres problèmes. Pendant les années 80 et 90, j'étais aussi très active dans des groupes féministes. Penses-tu qu'il y a une grande différence en Turquie entre le féminisme des années 70 et celui des années 80 et entre le féminisme et les théories du genre qui apparurent ensuite comme aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il y a une grande différence, mais je pense que nous ne vivons pas cette différence de la même manière en Turquie qu'en Europe ou aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, dans les années 70, le féminisme faisait partie des mouvements politiques en Turquie. Dans les groupes politiques, il y avait des groupes de femmes. Et quelles étaient leurs revendications ? Des groupes de femmes étaient organisés et avaient du pouvoir dans des communautés de femmes, mais en fait, leur idéologie n'était pas très différente de celle des hommes. La question du genre est arrivée en Turquie dans les années 90. Je trouve que cette théorie est très importante et on en parle beaucoup maintenant, et nous avons des études femmes dans quelques universités. C'est un important point de départ pour nous. Mais toi, Gulsun, de quelle manière utilises-tu ton travail féministe, critique, dans ton travail d'artiste ? De quelle manière le féminisme a-t-il une action sur ta pratique artistique ? Et comment le féminisme est-il reçu dans le monde de l'art en Turquie ? En tant qu'artiste, je ne travaille pas toujours sur des questions féministes, mais parfois, quand je regarde en arrière, je réalise que mes travaux les plus forts contiennent des critiques féministes. Récemment, j'ai eu beaucoup de plaisir à participer au groupe de travail interdisciplinaire intitulé Kultur, a Gender Project, que nous avons conduit à l'Ashted Halle à Zurich avec Ursula Biman, avec un groupe de femmes d'Istanbul, sociologues, cinéastes. Et je pense que la critique féministe en pratique est extrêmement enrichissante et s'ouvre toujours sur de nouveaux résultats. Quoi qu'il en soit, de manière générale, le féminisme ne concerne pas encore beaucoup le monde de l'art en Turquie.
Running in the best of everyone.
Est-ce qu'il est imaginable que vous me fassiez une sorte de petite liste des choses qui, clairement, pour vous, montrent la pratique féministe dans l'art des femmes? Qu'est-ce qui, quand même, malgré tout, les identifie dans leur travail artistique? Pauline?
Je ne pense pas qu'on puisse faire ça, non, parce que nous, on a travaillé avec 8 personnes qui représentent 8 points de vue très différents les uns des autres, et ces 8 personnes ne sont pas du tout représentatives. Donc je ne pense pas qu'on puisse le faire.
Ursula, vous êtes d'accord avec ça?
Si on peut faire une liste.
Oui, est-ce que ce n'est pas possible, même ne serait-ce qu'à l'aide de 8 artistes différentes, d'essayer de distinguer ce qui fait la particularité de la pratique artistique féministe?
Je pense que c'est difficile, sans fixer les choses et en faire des espèces d'emblèmes, c'est difficile de faire une liste, mais néanmoins, il y a un certain nombre de jalons qu'on peut retrouver qui sont... à partir des années, du milieu des années 70, pour dire les choses en français, de dire que certaines femmes ont travaillé plus avec les nouveaux médias, la vidéo, la photographie, des médias qui étaient pas, qui s'inscrivaient pas dans l'histoire de l'art traditionnel, de la peinture, de la sculpture. Je pense que ça, c'est une chose visible. Et puis un souhait de différences structurelles, de travailler différemment dans d'autres structures, de montrer les choses d'une autre manière, mais pas forcément en disant « je suis femme, donc je monte d'une autre manière », mais simplement parce que un mélange complexe de contraintes et de volonté, de contraintes de fonctionner d'une autre manière à cause de l'exclusion et d'une volonté d'utiliser d'autres médias qui sont moins connotés et de trouver un autre chemin en dehors de l'idée individuelle de l'artiste qui s'exprime, qui se montre et qui a une pratique individuelle. Dans un travail de groupe, dans un travail d'autres manières de fonctionner qui sont nouvelles ou différentes.
Quelques exemples, t'arrives à concrétiser un peu ça?
Par exemple, l'artiste que j'ai cité auparavant qui montre ses publicités. D'abord, c'est des publicités, c'est pas un travail qu'elle a fait elle-même. Et elle a longtemps travaillé dans un groupe qui s'appelle Groupe Matériel, qui existe d'ailleurs toujours, où c'est un travail de collaboration pour mettre en place des expositions, mais aussi de faire des actions dans l'espace public, à toutes sortes de niveaux, de faire plusieurs travaux qui ne sont pas forcément inscrits dans un média, mais où on choisit le média en fonction de la situation. Et les médias peuvent être autant la photographie que la vidéo, que l'action dans la rue, qu'une conférence, qu'un workshop, que toutes sortes de choses en fait.
Et au niveau du contenu, des idées, tout à l'heure, Ursula, tu disais que les femmes sont souvent préoccupées par le monde du travail.
Bon, par le monde du travail ou par leurs propres conditions de production dans lesquelles elles se trouvent. Il y a un travail, par exemple, ici, présenté par Sylvia Cafesi, qui examine les conditions de production de films de pornographie, par exemple. C'est en français, on peut tout, et c'est tous les gens qui sont qui font partie de la production ont été interviewés. Alors de voir un peu derrière la coulisse, derrière les rideaux, quoi, la production, et de démystifier, de déconstruire. La situation financière, économique et les relations de pouvoir dans lesquelles nous nous trouvons. Je crois que c'est un aspect très important pour pratiquement tout le monde qui est là dans cette salle. Et on comprend aussi dans les années 90 que ce n'est pas assez de déconstruire des représentations visuelles qui nous influencent, il n'y a pas de doute. Mais d'attaquer aussi un peu les structures et d'être innovative aussi dans la façon de travailler dans des collaborations et de chercher un échange interdisciplinaire et ne pas avoir peur de travailler aussi avec des femmes qui sont dans les sciences ou dans les académies pour enrichir, de trouver des solutions aussi d'avancer son propre travail aussi avec une expérience très différente, comme si on travaillait dans un atelier, comme on faisait ça encore dans le début des années 70, par exemple.
Entretien avec Sylvia Cafesi. Pourrais-tu décrire ton projet Gewerbeschein Künstlerin, les femmes dans le film porno? Ces dernières années, les images porno sont devenues très importantes pour les femmes artistes comme une tentative d'auto-définition de leur propre sexualité. On peut citer des exemples comme les expositions Bad Girls, Angry Woman ou Riot Grease, et aussi pour les cinéastes féministes. En même temps, la prostitution et la pornographie se sont développées pour devenir des constituants importants du système économique. Ces aspects socio-économiques sont les points principaux de mon travail « Gewerbeschein Künstlerin ». Ce titre fait allusion aux femmes étrangères qui obtiennent un permis de travail de 8 mois pour travailler dans l'industrie du sexe. Le projet était organisé en 3 parties qui se suivaient, contenait des sujets tels que les stéréotypes sexuels de l'industrie de la consommation, les fantasmes pornographiques, la situation des femmes migrantes dans l'industrie pornographique, les professionnels des films et vidéos porno, les acteurs et actrices, les producteurs, le metteur en scène, et le corps et la sexualité considérés du point de vue de l'individu et des esthétiques émergentes. Gewerbeschein Künstlerin fait partie d'un travail en cours. Il a commencé avec un autre projet, Censorship, la censure, qui avait à voir avec les nouveaux mouvements sociaux aux États-Unis, mouvements qui se battaient pour l'égalité des droits, et leur activité fut pour une bonne partie censurée, mais pas de la même manière qu'en Europe. Mon travail Gewerbeschein Künstlerin fait partie de ce même projet censure parce que de l'avortement à l'usage de la drogue, à la pornographie et de la prostitution, etc., toutes ces questions font partie de cette discussion sur la censure aux États-Unis. Et j'étais intéressée par le fonctionnement de ce système pornographique, le système économique qui conduit la femme dans ce marché, parce que la Suisse ou tout autre pays européen gagne beaucoup d'argent dans ces affaires. C'est une grande part du système économique, c'est la raison principale qui m'a conduite à réaliser ce projet et aussi à montrer comment ces images pornographiques fonctionnent dans la société. Je voulais changer ces images moralisantes. J'ai aussi inclus à la situation des femmes migrantes comme appartenant à ce système économique qui laisse certaines personnes survivre et d'autres pas. Juste pour changer ce point de vue, si tu veux trouver un travail par exemple comme femme d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Europe de l'Est, ta seule chance, c'est ta seule chance de travailler en Suisse, c'est dans l'industrie du sexe ou alors de te marier. Et je voulais aussi montrer comment ces femmes continuent ce type de travail. Et comment elles contrôlent la situation, comment ces femmes qui prennent de la drogue et qui se prostituent pour pouvoir se procurer leur dose. Il me semblait plus important dans ce cas de regarder du côté des hommes qui viennent utiliser ces femmes, parce que c'est tellement fou, il y a tellement de violence, on ne parle jamais des hommes, mais les femmes sont toujours considérées comme des coupables. J'ai aussi invité un couple spécialisé dans le sadomaso et les scènes plastiques. À l'époque, on parlait beaucoup de ce genre de scènes. Ce couple travaille dans une direction artistique particulière et aussi avec des objets pornographiques et toute cette camelote. Il y avait aussi un regard derrière les coulisses sur la situation des productions de ces films pornographiques. Deux personnes ont réalisé des entretiens avec 8 personnes qui ont collaboré au tournage d'un film porno. Normalement, quand on ne fait pas partie de la scène, on a une image de bonne qualité. C'est juste le côté moraliste. Cette pièce donnait la possibilité de regarder chaque entretien sur un moniteur et pour moi, c'était important. Parce qu'après un moment, cette situation de production de films porno devenait très normale. Ils font ces trucs porno, tu vois. Comme un travail, comme n'importe quel autre. Nina Hagen, bien sûr, dans Onde Femme, Remue Ménage 93.8. Dans quelques instants, la suite et la fin de notre rencontre avec nos trois jeunes femmes qui ont mis sur pied cet énorme projet. 27 ans et peut-être un peu plus.